Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap avec Albert Mamie. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un homme qui a eu une vie plus que bien remplie. D'ailleurs, je me demande si nous allons essayer de la survoler, mais seulement la survoler en une petite heure de temps. Mais ce que nous dirons pas, eh bien vous pourrez le retrouver dans un livre qu'il vient de sortir. Le nom de ce livre, Une passion sorésienne, et pas corésienne, je ne savais pas qu'il y ait de... Hein, c'est très proche, Une passion sorésienne de Sorèze, aux éditions Anne-Marie Denis, une éditrice que nous saluons ici, ainsi d'ailleurs que son action au profit de la lecture des livres des auteurs de la littérature. Anne-Marie Denis qui trône dans sa librairie Salon de thé de Sorèze, donc elle était sur place et bien placée pour pouvoir travailler ce livre avec notre invité et l'éditer. Bonjour Albert Mamie.
Bonjour, bonjour à tout le monde et merci de me recevoir.
Eh bien, c'est un grand plaisir, à plusieurs titres d'ailleurs, mais on ne va pas donner tous les titres, on va essayer surtout de beaucoup vous écouter. Et bon, on va parler de Sorèze qui est un point central dans votre vie, mais il y en a eu un autre point central. Vous fûtes, il n'y a pas si longtemps, vous l'étiez encore avocat.
Oui, bien sûr. Donc, une double vie, à la fois, bien sûr, professionnelle, hein, d'avocat au barreau de Toulouse, hein, et puis, bien sûr, une vie également publique. C'est d'ailleurs à cause de Sorèze que j'ai fait un petit peu de politique, hein, car c'est par le territoire, par notre terroir, qui a été ma passion. Sorèze est ma ville aimée, et par conséquent, je me suis occupé, par conséquent, d'autres assemblées qui m'ont permis, effectivement, d'avoir une vision un peu globale de la politique.
Albert Mamie, nous y reviendrons, mais d'abord, bon, le métier d'avocat qui vous est cher, mais quelque part, moi aussi, même si nous l'avons quitté,
oui, cher
tous confrère. Les deux, voilà. Voilà, c'est une réunion du barreau ce matin.
Et oui.
Pourquoi vous avez choisi ce métier ?
Alors c'est tout à fait par hasard, parce que moi je suis le fils d'artisan, monument funéraire, la maison Mamie, depuis 200 ans, Sorèze.
Oui, oui. Et donc, qui après s'est mis à Toulouse.
Oui, oui, oui.
Alors, et que nous connaissons Toulouse. Bien, et dont d'ailleurs on peut le dire, j'ai aussi été à une certaine époque le conseil pendant assez longtemps.
Voilà. Et donc, rien ne me prédisposait à la profession d'avocat.
Et, vous auriez pu être croque-mort.
C'est mon frère qui avait la vocation, qui également, d'ailleurs, a été un petit peu dans les affaires politiques, puisqu'il était 30 ans adjoint au maire de Pierre Baudis et de Dominique Baudis, ici à la mairie de Toulouse. Mais c'est un petit peu par hasard. En réalité, je souhaitais être journaliste. Et donc, je me suis dit, tu vas aller au barreau.
C'est amusant parce que moi aussi, au départ, et puis bon, on s'est retrouvés au barreau, et aussi par hasard.
Et le théâtre m'intéressait aussi. Bon. Et puis finalement, c'est le côté, on va dire, entre guillemets, plus sérieux qui a prévalu. C'est-à-dire que, après les études de droit classique de Sciences Po, j'ai passé le CAPA. Et je suis tombé sur ce qu'on appelait à l'époque un patron, Georges de Capella, qui était un ami de la famille. J'ai trouvé en lui vraiment quelqu'un de formidable qui m'a appris à aimer cette profession. Sinon, je n'y serais pas resté. Et donc, c'est un peu le hasard. Et la rencontre également avec quelqu'un qui, pour moi, était exceptionnel, Georges de Capella, qui a été ensuite mon associé pendant une vingtaine d'années.
Et vous avez fait le choix de vous installer à Toulouse, pas à Sorèze.
Bien sûr. Toulouse, bon, j'avais la double vie, c'est-à-dire que ma grand-mère était sorésienne, papa toujours Sorèze, c'était formidable, et j'avais passé mon enfance et la maternelle, l'école à Sorèze. Quand mes grands-parents sont morts, j'ai été rapatrié sur Toulouse, j'étais au lycée Saint-Joseph et puis fac de droit et ainsi de suite. Donc j'ai cette double nationalité, entre guillemets, Sorèze et Toulouse, Toulouse-Sorèze.
Alors le métier, quand vous l'avez démarré, c'était certainement bien différent de ce qu'il l'est aujourd'hui.
Mais oui.
D'abord, il y a beaucoup plus d'avocats, mais ce n'est pas le problème. Il y avait peut-être un autre état d'esprit, peut-être un attachement un peu plus important aux valeurs de la défense et aux valeurs du métier d'avocat, plus proche du serment que l'on prête ordinairement.
Tout à fait. Si tu veux, si vous voulez, le barreau de Toulouse à l'époque, c'était une famille, une véritable famille. Lorsque j'ai prêté le serment, je pense que j'étais le 105 ou 110e. On était juste environ 120 avocats. Et aujourd'hui, 1800.
Je crois qu'on tutoie les 2000.
Pas loin. Et donc, c'est vraiment une véritable famille. Et puis, je me souviens des premiers pas, hein, où il fallait saluer au palais les vieux bâtonniers qui étaient là et qui avaient un regard à la fois critique et amical. Et qui rapportaient un
amical
autre...
Amical pas tous.
Non, c'est vrai, mais bon, hein, avec le temps qui passe. Mais c'est vrai que c'était une véritable famille et qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est totalement différent.
Oui, puis le métier a évolué, les tensions économiques se sont exacerbées. Et puis on voit même, quand on va sur les réseaux sociaux, quelques jeunes confrères qui proposent le divorce à 690 euros, tout compris. On se demande là où est véritablement l'avocat, le travail de l'avocat, l'assistance de l'avocat, qui est quand même très intuitue, personnelle. Ce n'est pas qu'une question d'argent. L'argent est important, mais pas que dans ce métier.
Bien sûr, c'était surtout ce que nous inculquait, c'était l'esprit de la défense. Et bon, je parle dans mon livre, bien sûr, de quelques confrères amis, Furbury, Lamoureux.
Ah oui, alors Furbury, moi je l'ai rencontré, j'ai eu déjeuné souvent avec lui. Et quelque chose qui m'avait stupéfait, c'est qu'il a été inscrit au barreau l'année où je suis né. Donc c'est dire que nous avions une certaine différence d'âge, mais c'était ce qu'on appelait les grands avocats. Furbury, oui. Lamoureux, c'était les noms... pénalistes d'abord, c'est-à-dire ceux que l'on voit, ceux qui opèrent souvent par la magie du verbe aussi, il faut bien le reconnaître.
Oui, ce furent enfin, de grands avocats reconnus, Furbury d'ailleurs au plan national a eu une carrière formidable et je me souviens, ma première plaidoirie aux assises, eh bien, j'avais pris le conseil bien sûr de mon patron mais également d'Alain et de Philippe, qui étaient vraiment par ailleurs qui s'intéressaient toujours aux jeunes. Alors, moi, je suis rentré au barreau 5 ans après eux, mais il y avait cette fraternité qui aujourd'hui peut-être n'est plus la même.
Entre certains avocats, oui, mais je pense qu'il faut... les tensions économiques font peut-être que certains confrères vont à l'essentiel aujourd'hui. L'essentiel aujourd'hui, c'est de payer des charges, c'est d'assumer la vie d'un cabinet, de trouver des clients. Pour certains qui ont aussi un certain esprit de responsabilité, de se former, voilà.
Oui, et puis le contentieux a beaucoup évolué, par conséquent...
Vous aviez une spécialité, Albert Mamie ?
Au départ, je faisais, comme l'on dit, du pénal. Puis ensuite, comme j'avais fait une préparation civiliste, c'était davantage la famille, davantage les successions. Étant dans le terroir, bien sûr également le côté tous les beaux ruraux, tout ce qui est intéressé.
C'est quelque chose qui n'est pas très partagé aujourd'hui. Pour trouver un bon spécialiste des beaux ruraux, c'est
vrai.
Compliqué.
Il se trouve que d'ailleurs le député actuel de notre circonscription, Maître Terlier, lui était un spécialiste des beaux ruraux, justement, Albi. Pour moi, c'était simplement le fait d'être en zone rurale qui m'avait amené à ce genre de contentieux. Et également, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était la défense des élus, leur responsabilité. Hein,
et notamment... C'est un sujet toujours à la mode, ça ne se démode
bien sûr,
pas.
Bien sûr. Alors moi, je l'ai vu des deux côtés, du côté parlementaire et du côté professionnel, hein, effectivement. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à, justement, la défense des élus locaux, qui souvent sont... donc sur le terrain et enclin à des difficultés que l'on connaît.
Et qui s'exacerbent.
De plus en plus.
Je veux dire que le métier n'est pas facile, le métier politique n'est pas facile, singulièrement celui de maire d'ailleurs, où les responsabilités pleuvent beaucoup plus qu'il ne faudrait, ce qui dissuade beaucoup de gens de se présenter à cette fonction. Qu'est-ce que vous avez des exemples d'affaires qui vous ont véritablement marqué comme avocat qui...
Oui, il y a quelques affaires. L'affaire de Saint-Nofari, par exemple, j'en parle dans le livre. ce qu'on appelait l'affaire Portal, cette vieille famille donc, qui était à Saint-Nofari et qui avait fait de mauvaises affaires et qui, par conséquent, s'était en quelque sorte barricadée dans leur château ou dans leur maison de maître. Et cette affaire s'est très mal terminée. D'ailleurs, moi, je n'étais que de passage parce que plusieurs confrères s'en sont occupés. Mais j'ai le souvenir, par conséquent, avec l'accord du bâtonnier, d'être allé dans ce château qui était entouré de CRS, de quelques journalistes un peu plus loin. Et il y avait là encore le corps du grand-père qui était dans une chambre non enterrée depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et son épouse, qui avait été sa servante polonaise et qui était devenue son épouse, qui veillait jalousement sur la famille avec un fils qui était un petit peu dérangé et qui malheureusement finira très très mal puisqu'il sera exécuté, si je puis dire, par les gendarmes lorsqu'il y aura l'assaut donné à la maison. Alors c'est une affaire qui m'avait marqué et qui m'avait permis de rencontrer Madame Duras.
Marguerite.
Oui.
Pour les intimes.
Et oui, Marguerite Duras, qui s'intéresse à cette affaire, parce que c'était un petit peu l'image d'une grande famille décadente qui s'accrochait encore à sa terre, avec tout ce qu'il y avait autour. Ça l'intéressait énormément. Et je crois qu'elle a écrit pas mal sur cette affaire. Ça m'avait permis de le rencontrer ici, dans un restaurant de Toulouse.
Oui, ça, ce sont de grandes affaires qui marquent, qui mettent l'humain en cause, parce que c'était ça qui était central dans l'affaire Portal. Oui. Une autre affaire, peut-être, que vous avez vécue, il y en a d'autres, certainement. Vous avez dû plaider aux assises moult fois.
Oui, alors, les assises, c'est un exercice extraordinaire, où vraiment, là, on a conscience d'être la défense.
Oui, parce que celui qui est derrière, là, il joue à une certaine époque sa vie pure et simple.
Oui, ça a été le cas d'ailleurs pour Ferruri et la Morue, sur l'affaire des gitans là, qui ont été condamnés à mort et qui ont été graciés finalement. C'est-à-dire que Ferruri et la Morue étaient montés à Paris voir le président de la République, était Giscard d'Estaing à l'époque, et qui parfois n'accordait pas la grâce. On l'a vu dans différentes affaires. Et là, ils avaient emporté le morceau et j'avais su par un des conseillers de Giscard d'Estaing qu'il avait beaucoup apprécié leur prestation et très sans doute avait-il réussi à obtenir la grâce par leur plaidoirie auprès du président.
Oui, c'était deux grands, on rappelle leur nom, Ferruri et puis Philippe Lamoureux, c'était voilà. Vraiment deux grands avocats.
Et qui étaient des amis, par ailleurs, l'un et l'autre. Totalement différents, mais également un petit peu, et très amis, mais différents, d'une façon.
Question délicate, qu'est-ce que vous pensez des juges ?
Ah, voilà. J'en ai connu beaucoup, comme vous, cher ami, j'en ai connu beaucoup. Alors, certains m'ont beaucoup marqué, car par leur constance, leur savoir, et d'autres un peu moins. C'est comme la vie, c'est comme parmi les avocats, les commerçants, les artisans, les fonctionnaires, il y a les bons et les moins bons. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est allé vers un glissement. Un glissement, et on le voit au plan national, européen, voire international, où aujourd'hui, effectivement, les juges, en quelque sorte, deviennent les... on parle du pouvoir judiciaire. À l'époque, ce n'était pas tout à fait le cas.
Oui, aujourd'hui, on sent qu'ils ont un peu les dents longues ou qu'ils ont peut-être des choses à exprimer. Sortent-ils de leur robe pour l'exprimer ? On peut parfois se poser la question.
Oui, c'est-à-dire que, en quelque sorte, ils seraient la pureté. Et nous, notamment la défense, bien sûr, nous serions sensibles à tous les maux de l'homme et de la terre. Et donc, il y a là une différence profonde qui n'existait peut-être pas de la même façon il y a encore 20, 30 ou 40 ans, où nous étions proches des magistrats. Bon, on se retrouvait autour de repas, au café, oui, on jouait au tennis.
Chose qui n'est plus vraie aujourd'hui, au moins dans les grands barreaux.
Oui, alors ce qui était intéressant, c'est que ça permettait d'avoir un rapport personnel, qui n'enlevait rien d'ailleurs ensuite au niveau des affaires. Mais cette proximité était intéressante dans la mesure où on se comprenait les uns et les autres. C'était le même monde. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un distinguo important.
Et même question, toujours un peu délicate, les clients, quel rapport aviez-vous avec les clients? Et est-ce qu'au fur et à mesure que vous progressiez dans l'âge, est-ce que ces rapports avec les clients ont changé?
Peut-être. Moi, j'ai toujours eu une certaine proximité, parce que c'est ma nature. Hein, voilà. Et donc, parfois, cela peut être dangereux, vous le savez. Hein, et donc, il faut, bien sûr, garder une certaine présence à la fois, mais également différence.
Alors, Norme va toujours sur deux pieds. Le premier, on vient de l'évoquer, c'était ce métier d'avocat, la robe et la défense. Et puis le deuxième pied, en ce qui vous concerne, c'était Sorèze.
La double vie.
Voilà, la double vie, mais bon, pour la bonne cause. La passion sorèzienne, ce livre que j'évoquais tout à l'heure et dont on reparlera bien sûr, traite largement de tout ce qui s'est passé à Sorèze. Alors, vous avez été maire de Sorèze pendant
un demi-siècle, c'est-à-dire élu à Sorèze un demi-siècle. Maire de Sorèze, 44 ans, 2 mois et quelques jours, hein, bon. Puisque j'ai lâché la mairie un 25 mai 2020, après le premier confinement qui a été pour moi la dernière expérience et pas facile.
Alors, Sorèze, tout le monde doit connaître Sorèze, mais peut-être pas absolument tout le monde. Où se situe cette... Alors, on dit une ville, un village, c'est une petite ville.
Oui, alors maintenant, on dit cité, comme ça.
Comme ça, il n'y a plus de problème.
Moi, j'aime bien, selon les mots, village, parce qu'encore, à Sorèze, il y a l'esprit village, et j'ai tenu à le préserver le plus longtemps possible, mais nous sommes ouverts, bien sûr, très près de Toulouse, à côté de Revel et de Castres, donc, en réalité, ça n'est plus totalement la ruralité profonde, hein, c'est davantage donc, une ville. Donc, cité de Sorèze, et par ailleurs, ce nom recoupe aussi le côté culturel, le côté patrimonial de Sorèze, la cité de Sorèze. Voilà. Mais moi, ce qui m'a plu dans ce petit village dans lequel j'étais tout jeune à l'école, c'était... cette ambiance assez extraordinaire d'un monde fermé, hein, que j'aimais énormément, que mon père m'avait transmis. Cet amour du terroir, hein, qui m'a toujours ramené à Sorèze. Et le jour où on est venu me chercher, c'était des copains du football, parce que l'équipe de football se cassait la gueule, donc c'était fini. Bon, c'est vrai que toutes les communes rurales à l'époque étaient en perdition. Les gens partaient à la ville et donc le phénomène de Sorèze était comme celui des autres communes rurales. Et donc, ils sont venus me chercher alors que je m'apprêtais à devenir un des élus de Toulouse avec Pierre Baudis. Et c'est Maurice, mon frère, qui m'a remplacé d'ailleurs. Et à ce moment-là, élu conseiller général à Sorèze, enfin Sorèze-Dourgne, pour moi, le terroir était plus fort que tout le reste.
Alors vous avez managé cette ville que vous avez vue grandir quand même.
Oui, elle est passée, elle a doublé.
Et il y a surtout à Sorèze quelque chose, enfin un établissement, un édifice absolument marquant, c'est l'abbaye-école.
Oui. Alors, l'abbaye-école, pourquoi abbaye-école? Parce que l'école de Sorèze, qui est devenue école royale militaire sous Louis XVI, une des 12 écoles royales militaires, est née d'une abbaye qui existait depuis longtemps. En réalité, il y a eu 4 abbayes. une première abbaye, Pépin le Bref, donc 753-54, détruite par une première fois par les Sarrasins qui étaient à Narbonne, voire à Carcassonne à un certain moment, et qui y avait des razzias incessantes, reconstruite très rapidement, à nouveau détruite par les Normands qui assiégeaient Toulouse et qui remontaient jusque-là, reconstruite ensuite, et puis la troisième abbaye, qui était sans doute la plus importante du point de vue, en tout cas, du, entre guillemets, du personnel, il y avait une cinquantaine de moines à cette époque-là, a été détruite par les guerres de religion qui ont été terribles en Occitanie, notamment chez nous, bien sûr. Et cette troisième abbaye n'a été reconstruite qu'une cinquantaine d'années plus tard. Là, nous nous situons au milieu du XVe siècle. Et par conséquent, la quatrième abbaye, qui sera reconstruite par les mauristes, les bénédictins mauristes, hein, qui sont de très bons architectes, avec des lignes simples mais majestueuses. Et de cette quatrième abbaye va naître le collège, l'école de Sorez. Hein, parce que là, ce sont des moines qui sont très en avance. Au lieu d'enseigner uniquement latin, grec, on va enseigner en français. On va avoir par conséquent des professeurs qui sont des natifs, en Espagne, italien, allemand. Et puis le sport, enfin le sport de l'époque, l'équitation, le cheval, etc. Et donc, les élèves vont venir, dès cette époque, du monde entier, enfin du monde entier, c'est-à-dire...
Du monde connu, au moins.
Oui, de l'Europe, mais également des Amériques, notamment de l'Amérique latine, puis plus tard de l'Afrique. Mais donc, dans ce petit lieu au pied de la Montagne Noire, vont venir des élèves du monde entier, et dont certains vont devenir célèbres. Hein, voilà.
Je peux citer quelques noms.
Oh, des noms, alors, des noms qui sont connus, beaucoup de maréchaux. La Sorézienne, la chanson des élèves de Sorez, nous dit que Napoléon a trouvé une vingtaine de généraux à Sorez, auparavant d'ailleurs le roi également, et puis en suivant l'Empire, bien sûr, la République. Tout le monde connaît les Caffarelli, hein, notamment, qui étaient d'ailleurs originaires du coin.
Ils n'étaient pas qu'une caserne toulousaine.
Non, la famille venait de Saint-Julia, à côté de Revel. Et notamment bien sûr, le plus connu des Caffarelli, c'était le général à jambes de bois qui va mourir devant Saint-Jean d'Acre, hein, dans les bras de l'empereur, dans les bras, qui n'est pas encore empereur, qui est encore Bonaparte. Hein, voilà. Et son frère également, Caffarelli, va être un des grands généraux d'Austerlitz.
On fait une pause, une première pause musicale. Albert Mamy, c'est vous qui l'avez choisi. Alors, on est à Sorez, on va y revenir après la pause musicale. Mais celle-là va nous amener à Toulouse, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'on écoute ?
Au Toulouse,
de Nougarfou nous expliquerait après la raison de ce choix.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes où mon pays, au Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. ô mon pays, ô Toulouse. Un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Sernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir, c'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Revois ton pavé, ô ma cité gasconne. Ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuile? Ô mon pays, ô Toulouse, ô Toulouse.
Voilà Claude Nougaro, Toulouse, le choix de mon invité Albert Mamy, Nougaro dont nous allons reparler très prochainement puisque... je vais recevoir sa fille, ou plutôt, je pense qu'elle me recevra dans la péniche qu'elle a, je ne sais pas comment dire, qu'elle a aménagée, où tout rappelle Claude Nougaro, cette espèce de musée de Claude Nougaro, mais un musée vivant, un musée qui évolue tous les jours. Pourquoi vous avez fait ce choix, Albert Mamy? Bon, c'est vrai que Nougaro n'a pas chanté Sorès, donc...
Non, il a chanté Toulouse, mais je vous l'ai dit, j'ai la double nationalité, toulousaine et sorésienne, en quelque sorte. Tout simplement parce qu'il a été élève à l'école de Sorèze.
Tout
comme Hugo Frey, oui, il a été élève.
Alors,
chez les moines, l'école de Sorèze. Oui. Donc, c'était juste après la guerre. Ses parents étant, par ailleurs, acteurs, musiciens, chanteurs plutôt, musiciens. On les mettait dans des institutions parce qu'ils étaient à l'étranger très souvent, enfin, en tournée en tout cas. Et donc, Claude Nougaro est venu à l'école de Sorèze. Ça n'a pas été la seule, d'ailleurs. Et puis, il n'en garde pas un très bon souvenir. Alors que Hugo Frey garde un excellent souvenir de Sorèze. Il le dit dans ses émissions, dans ses chansons aussi, etc. Hein, donc. Alors, Claude Nougaro, quartier des Minimes, ça me rappelle un petit peu mon quartier toulousain de Saint-Sylvain. Voilà pourquoi. Et puis, j'aime bien cette chanson.
Le père Lacordaire.
Oui.
C'était un homme de l'abbaye, école.
Alors, le père Lacordaire est venu à Sorèze. Bon, vous connaissez la vie du père Lacordaire, hein, la diva de Notre-Dame. Oui. Alors, tout comme nous, il a été d'abord avocat. Il a porté la robe. Il a porté la robe d'avocat. Et puis ensuite, il est devenu prêtre, puis moine. puis moi.
Ce qui nous est pas arrivé.
Ouais, voilà.
J'allais dire Dieu merci.
On n'a pas changé. On n'a pas changé de robe. Ouais. Lui a changé de robe et par conséquent, il est devenu donc le prêcheur de Notre-Dame. Et par ailleurs, il a été également député, ce que l'on sait moins. Académicien, oui. Académicien aussi, mais député, alors député de Marseille, parce qu'à l'époque, 1848, on pouvait se présenter dans plusieurs circonscriptions, ou on présentait tel personnage dans telle ou telle circonscription. Il avait été battu à Paris, mais élu à Marseille. Donc il a siégé.
Un peu comme les écoles de commerce, on présente plusieurs concours.
Oui, mais puis... là, davantage de chance d'être élu. Et donc, il a siégé. Robe dominicaine, puisqu'il avait créé, il avait, non pas créé, mais il avait en quelque sorte rétabli l'ordre des dominicains, après quelques difficultés avec le pape de l'époque, car il faut savoir que la Cordère, qu'on appelait un libéral, ce qui devenait à l'époque un homme de gauche, et donc la Cordère a eu des démêlés, bien sûr, au plan politique, et par conséquent, la deuxième partie de sa vie, il voulait la consacrer à la jeunesse. Et venant prêcher à Toulouse...
L'Église aime bien la jeunesse.
Oui, mais là, d'une très belle façon, d'une très bonne façon. Et donc, la Cordère, venant prêcher à Toulouse, on lui dit, mais là, il y avait une très vieille école, Sorèze, etc., qui est en perdition. Donc, il vient à Sorèze, il découvre le site... Il en tombe amoureux et puis il rachète le site. Il va créer d'ailleurs une des premières sociétés anonymes, curieusement par la suite.
Et il a carrément racheté le site.
Il a racheté le site, il a racheté l'école. Et ça a été la troisième grande période de Sorèze après celle des bénédictins. Puisque Sorèze, École royale militaire, ce sont les bénédictins. Et là, donc, la Cordère va créer le tiers ordre enseignant des dominicains. À Sorèze, à Moulins, à Oulins, pardon. Et donc, ça va être la troisième grande période de Sorèze. Et la Cordère va y décéder. Et nous l'avons aujourd'hui, son corps est dans l'église paroissiale de Sorèze.
Alors, dans les religieux, il y en a un qui a marqué beaucoup la région. Vous a marqué aussi, je le sais, c'est Don Robert.
Oui, alors lui, c'est un bénédictin. Il était à l'abbaye d'Ancalcate, de Tournes.
Dont il a fait certainement en partie la richesse.
Pas tellement, parce que la richesse, oui, la réputation, une des réputations. Il y avait Don Jacob, il y a eu, enfin, puisque là, effectivement, en Calcate, il y a eu quelques personnalités vraiment intéressantes.
Alors, j'ai eu le plaisir, il y a quelques années, de faire une émission en Calcate avec oui. un certain nombre de moines que le père Abbé m'avait... Oui. Délégué, si je puis dire, et ça a été pour moi un grand souvenir. Je voudrais y revenir, mais bon, ils ne sont pas très très ouverts pour parler avec des étrangers ou discuter devant un micro. C'est dommage parce que ce sont des gens qui ont une culture et une puissance de raisonnement assez extraordinaire. Alors je communique toujours avec certains d'entre eux, avec le père Abbé, mais il me dit, mais vous nous avez compris, donc vous voyez bien, on vit quand même passablement reclus, c'est pas pour venir parler à un micro. Ce que je peux comprendre, mais c'est vrai que Don Robert a quand même fait la réputation, et puis vendent quand même toujours ses cartons. Don Robert, rappelons-le, c'était un homme qui faisait des cartons pour les tapisseries.
Oui, d'abord il était peintre au tout début, hein, en luminure, etc. Et puis, sa rencontre avec l'Ursa, notamment, a fait qu'ensuite, voilà. Il est allé vers la tapisserie. Don Robert était un jeune dandy à Paris. Il est venu en Calcate, il a eu la lumière et par conséquent, il est devenu moine. Mais c'est un moine très particulier qui adorait la vie. Hein, je le connaissais bien. Je l'ai fait visiter.
Ah, vous l'avez connu ?
Ah, très, 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 très bien. Je l'ai fait visiter une fois l'Assemblée nationale car il faisait des expositions à Paris, notamment dans la galerie Inard. Inard, qui sont des Toulousains. Et à l'époque, le ministre de la Culture qui était François Léotard, qui était un de mes amis, hein, puisque j'étais...
Il était en photo avec vous sur le livre, d'ailleurs.
Voilà. Et donc, il était venu. Mais Jacques Lang était venu dès le lendemain, d'ailleurs. Tous les deux, ils se suivaient en quelque sorte à la culotte. Bon. Et donc, Don Robert est un magnifique peintre tapissier. Et ses œuvres, aujourd'hui, sont visibles au musée Don Robert, à l'abbaye-école de Sorèze.
Alors, Sorez, vous y avez amené beaucoup de monde. Je vous renvoie vers le livre, puisque la dernière partie, c'est un peu les rencontres. Tout le monde est passé à Sorez, vous avez fait venir tout le monde. Vous avez attiré à peu près tous les politiques, des artistes, etc. Mais revenons à cette politique, justement. Vous ne vous êtes pas contenté d'être maire de Sorez, vous avez un peu grimpé les échelons. Alors, je ne sais pas si ce sont des échelons, mais départements, régions, et puis vous vous êtes retrouvé à l'Assemblée nationale comme député.
Oui, donc c'était en 1986, période de cohabitation, et ce qui était très intéressant pour un élu comme moi, c'est-à-dire que la majorité était de 3 voix, de telle sorte que la parole des parlementaires, notamment la parole des députés, était écoutée.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Mais non, mais pourquoi ? Parce qu'il y a des majorités pléthoriques et que par conséquent, le gouvernement porte tout. Le Parlement ne fait qu'enregistrer. Tandis qu'à l'époque, il y avait une discussion avec les parlementaires, avec les députés et avec les sénateurs. Ce qui m'a permis d'ailleurs de faire passer quelques lois, notamment une loi sur la protection contre le suicide des adolescents. Quelque chose qui me tenait à cœur parce que j'avais connu une affaire délicate en tant qu'avocat et je tenais absolument à protéger du suicide des adolescents. On sait tous que l'adolescence est un moment difficile et que par conséquent les idées suicidaires fleurissent malheureusement assez souvent. Et on s'apercevait que ces jeunes, alors à l'époque, il y avait tout un courant de pensée, effectivement, à la suite d'un livre qui s'appelait « Suicide, mode d'emploi », où on donnait les doses létales, les façons, etc. Et par conséquent, les jeunes ne se manquaient pas. Voilà. Et moi, je m'étais aperçu qu'à travers les statistiques, 80% des jeunes qui avaient des envies de suicide et qui faisaient des tentatives, 80% ensuite ne recommençaient pas. De telle sorte que c'était vraiment criminel que de leur donner absolument toutes les notions, les doses létales, la façon de procéder. Et donc, je m'étais beaucoup intéressé. Et donc, c'est une loi qui est encore aujourd'hui dans le code pénal. Je pense que c'est l'article 223, alinéa 13, 14, 15 du code pénal aujourd'hui, cette loi. Mais également, je m'étais beaucoup intéressé à la criminalité, bien sûr, l'application des peines, les prisons, notamment. Aujourd'hui, ces lois sont aujourd'hui encore d'une grande actualité, notamment c'est de l'application des peines. On sait qu'aujourd'hui, c'est un très, très grave problème. Les peines ne sont plus appliquées ou mal, pour un certain nombre de raisons, notamment le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de places de prison. Et nous avions fait pour cela une large enquête. Nous étions partis aux États-Unis avec notamment Mazot, Sapin et quelques autres, Bonne Maison, pour étudier un petit peu ce qui se passait aux États-Unis. Parce que le garde des Sceaux de l'époque voulait en quelque sorte, ce n'était pas tout à fait exact, mais privatiser les prisons. Et on n'était pas tout à fait d'accord, il fallait par conséquent discuter de tout cela. Et j'étais à la base de cette loi sur les prisons, qui n'était plus la première mouture présentée par le garde des Sceaux à l'époque, qui était Chalandon, qui voulait privatiser, parce qu'en réalité on ne peut pas tout privatiser. Mais par contre, sachant que par exemple, une des prisons, qui est celle de Montrégeau, on avait mis 10 ans pour la construire. De telle sorte que du jour de la décision de l'affaire et puis l'inauguration, 10 ans s'étaient écoulés. Donc on manquait de places de prison. Moi, j'ai le souvenir, toi aussi, vous aussi sans doute, la prison Saint-Michel, lorsqu'on rentrait, la première fois que je suis rentré là, cette odeur de graillou qui monte.
Et les rats, vous voyez passer.
Les rats, etc. Bon, il y avait vraiment celle d'Albi au départ, pas l'actuelle. Celle de Nîmes aussi, celle de Foix, c'était un cul de basse-fosse.
Ah, bon. Foix, c'est très spécial.
Et donc, dès que je suis arrivé à l'Assemblée nationale, pour moi, c'était en quelque sorte un devoir, étant donné que, on avait à ce moment-là beaucoup de poids, de faire passer ces lois, qui malheureusement, ensuite, en tout cas pour certaines, n'ont pas été suivies d'effet, notamment au niveau des prisons, parce qu'on annonce chaque fois la construction, et puis, on fait pas grand-chose, plus rien ou pas grand-chose. Voilà.
Ce qui donc, prouve que rien n'a évolué, parce que là, on parle des années 86, c'était
oui,
pareil
oui,
avant,
90,
et,
oui,
et c'est toujours
oui,
pareil
88,
aujourd'hui.
Oui, exactement.
Il y a toujours un énorme déficit. On est, la France est régulièrement condamnée par les instances européennes oui. pour la façon dont elle gère ses prisons, et surtout
bien
la
sûr.
Déshumanisation des prisonniers.
Mais oui, parce que...
Qui ne prépare pas à la réinsertion.
Il y a deux conséquences. Une première conséquence, obligatoirement, pas de possibilité d'une véritable politique pénale, parce que lorsque on emprisonne quelqu'un, automatiquement, il faut qu'il y en ait un qui sorte, obligatoirement, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place, d'abord. Et puis, deuxièmement, deuxième effet, des conditions, souvent, de 3-4 personnes dans une cellule, c'est pas normal. Mon premier contact, moi, à Saint-Michel, c'était un jeune qui avait volé une mobilette, ou je ne sais pas, qui parlait très mal le français, il était d'origine algérienne, et la première fois où je vais le voir à la maison d'arrêt, je le vois, le visage tuméfié, un œil au beurre noir, un œil fermé, la bouche, etc. Et je lui dis, qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, eh bien, on a voulu me sodomiser. Voilà. Mon premier contact a été terrible avec cette première vision de mon premier client qui avait été violemment agressé dans sa cellule.
Oui, des circonstances qui sont à peu près toujours vraies
oui,
aujourd'hui.
Oui,
hein,
voilà pourquoi je me suis intéressé effectivement
à... Pendant que vous étiez député, qui est un métier à part entière, vous aviez conservé le cabinet?
Oui, alors moi j'étais en société, j'étais avec...
vous aviez des associés, des collaborateurs?
De Capella, etc. Et donc j'allais à mon cabinet le lundi matin pour voir un petit peu. Je crois que je l'ai plaidé qu'une fois pendant les... pendant la législature, et puis toute la semaine, évidemment, je ne plaidais pas.
Comment les clients prenaient le fait que leur avocat était député? Si vous êtes député, ça veut dire que vous êtes marqué politiquement,
oui.
Et vous l'étiez
oui.
à l'époque. Puisque
ben oui,
vous,
bien sûr, oui, j'étais dans le groupe UDF, j'étais secrétaire général adjoint du Parti
républicain. Ça vous a fait perdre des clients ou ça vous en a fait gagner?
J'en ai sans doute perdu, j'en ai gagné aussi. Bien franchement, alors que bon, on a toujours su qui j'étais sur le plan politique. Les gens qui venaient me voir, mes clients étaient de tous bords. Je défendais les communistes comme des gens du Front National, comme des autres partis. Voilà. Donc, je pense que ça ne m'a jamais nui. Puis, par ailleurs, c'est une façon d'être, d'aborder. Moi, j'ai des amis partout. À droite et à gauche, il y a des imbéciles partout, d'un côté comme de l'autre.
Ouais, Chirac, c'était un ami, parce que dans votre livre, il y a un paragraphe, chapitre, La trahison de Chirac.
Mais oui.
C'est
oui.
pas sympathique, ça, pour le personnage.
Moi, je suis rentré en politique avec Valéry Giscard d'Estaing. Je raconte dans mon bouquin, d'ailleurs, un repas intéressant à Toulouse, où on m'avait demandé, où Giscard m'avait demandé de rencontrer Mme Baillet. Bon, la Dépêche du Midi était très engagée, c'est normal, à gauche, avec derrière François Mitterrand. Et donc, Valéry Giscard d'Estaing souhaitait un petit peu sonder à la fois intimement et amicalement Mme Baillet. Il avait demandé également à ce que Turca soit là. Pourquoi? Parce que Turca.
Pilote
était...
du Concorde, voilà. Pilote d'essai du Concorde.
Et polytechnicien comme lui. Et donc, ça avait été un repas assez extraordinaire donc, où j'avais réuni Giscard d'Estaing, Evelyne Baillet et Turca.
Et Léotard, François Léotard, qui a été ministre de la Culture, qui était
oui.
vraiment extrêmement
oui.
proche de vous, qui après
oui.
a eu des déboires.
Oui.
Politiques
oui,
et judiciaires.
Oui, qui sont terminés d'ailleurs il y a peu de temps, il y a quelques mois. Hein, oui, François Léotard, il aurait pu être un Macron. À l'époque, il était absolument...
Peut-être que Macron va devenir Léotard.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce qu'il a manqué à François, c'est une certaine détermination. Je crois qu'au fond de lui-même, il ne souhaitait pas cette, en quelque sorte, le poste suprême. Mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. Mais il y avait en lui, sans doute, une certaine faiblesse qui a fait qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Et lorsque je parle de la trahison de Chirac, c'est simplement lorsque, effectivement, à la fin du seul mandat du président Valéry Giscard d'Estaing, incontestablement, Chirac a fait en sorte qu'il soit battu. Ben je raconte dans le livre, mais tout cela est connu aujourd'hui, bien sûr, ce repas chez Dick Cresson, où effectivement, bon, ils vont décider d'abattre le personnage.
Quel jugement vous portez sur tous ces politiques que vous avez connus ? Est-ce que ce sont des gens respectables ? Est-ce que ce sont des gens qui croient à ce qu'ils font ? Ou est-ce qu'ils ont des postures et ils occupent des postes ?
Je vais vous dire deux choses. D'abord, j'ai rencontré des gens admirables, mais souvent au niveau des petites communes, des maires, des élus locaux. J'ai vu des maires désespérés, j'ai vu des maires qui se battaient vraiment bon, pour leur terroir, pour leur village, pour leur petite ville. Et d'une façon assez générale, de tout bord politique, admirable, vraiment admirable. Par contre, sur le plan national, les personnages que j'ai rencontré des gens formidables, mais également d'autres qui peut-être l'étaient beaucoup moins. Donc aujourd'hui, mon regard est un peu différent.
Ça veut dire qu'il est beaucoup plus critique que ce monde-là. Aujourd'hui, vous ne le fréquenteriez plus comme vous l'avez fréquenté ?
Ben, j'ai aimé le fréquenter, mais vous savez, lorsque j'aimais monter à Paris, le lundi, mais il me tardait de redescendre, de redescendre à Toulouse et à Sorèze. Alors c'était pour moi quelque chose, l'attirance. J'aurais pu, étant secrétaire d'un parti politique, à un certain moment, c'est moi qui, j'étais en dessus, qui désignais les candidats. J'aurais pu choisir une circonscription, la région parisienne, vous savez, il y en a qui, un homme de gauche est élu automatiquement à Carmaux, etc. Mais dans d'autres circonscriptions, c'est un candidat de droite. Donc, moi, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était Sorèze, Loustal-Parral, celui...
Si on vous avait proposé d'être ministre, vous l'auriez accepté ?
Sans doute à l'époque, oui. Ça a failli se faire au niveau de, notamment de la pénitentiaire. À un certain moment... Giscard d'Estaing devait être, en 86, avoir un grand ministère européen avec... Et Michel Dornano devait être son garde des Sceaux. Et bon, normalement, si Dornano était garde des Sceaux, j'aurais été sans doute secrétaire d'État à la pénitentiaire. Voilà. Heureusement, je ne l'ai pas été.
Vous avez peut-être échappé à ça. On fait une deuxième pause musicale. Alors, ça, là, c'est de mon choix. Alors, moi, je suis allé... D'abord vers quelque chose qui est peut-être un art un peu désuet aujourd'hui, mais qui est si charmant, c'est l'opérette. Et comme je reviens un peu de la Méditerranée, puisque j'ai passé quelques jours à Barcelone comme souvent, voilà, j'avais envie d'entendre Francis Lopez. Alors ils sont mis à quatre, il y a Maurice Lehmann, Henri Werner, Henri Faust et bien sûr Francis Lopez que vous allez reconnaître.
Le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait à sa beauté plus de douceur, mille jardins lui font comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée, au clair de lune, entendez-vous dans le lointain comme un écho qui sur les vagues s'achemine. Attendez-vous le gai refrain des tambourins, accompagné du trémolo des mandolines. C'est la chanson qui vient bercer toutes les nuits les amoureux du monde entier qu'elle a séduit. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages sans nuages, au ciel à chanter. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée, aux îles dans l'ensoleillé. Au rivage, sa nuage, au ciel a chanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. C'est la chanté, Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté, Méditerranée.
Voilà, Méditerranée, Francis Lopez, opérette bien connue, peut-être un peu oubliée, mais on aime bien rappeler ce genre de choses ici. Alors, hors micro, bien évidemment, continuer à parler avec mon invité, Albert Mamy, avocat, homme politique, maire de Sorèze. Et justement, alors, on a été au point où il me disait, mais Mitterrand et Lacordaire, le père Lacordaire que nous avons été évoqué tout à l'heure. Alors, quel est le lien entre Mitterrand et Lacordaire ?
Bien, tout simplement, j'ai deux anecdotes dans le livre. Une première, d'ailleurs, sur Toulouse, j'ai rencontré Mitterrand, qui n'était pas encore président. Hein, il était simplement secrétaire du Parti Socialiste.
Et hein, avocat.
Il avait été avocat, oui. Et garde des Sceaux aussi.
Aussi, c'est vrai. Hein,
voilà. Mais dans un ascenseur, qui était un hôtel de Toulouse, les Comtes de Toulouse, hein, qui existait à Toulouse, qui aujourd'hui n'existe plus. Et dans cet ascenseur, Mitterrand était avec une dame qui était très
souvent
certainement...
Souvent avec des dames. Hein.
Oui, mais qui était, je pense, très certainement Madame Pinjot, bien que notre confrère Sudre, qui était dans le même ascenseur que moi, le conteste. Mais enfin, bon...
Sudre qui était aussi très proche de Sorèze.
Oui, tout à fait. Oui, son père était maire de Revel, d'ailleurs, Monsieur Sudre. Et donc, j'ai rencontré la Mitterrand, mais alors quelques instants, avec cette dame qui était très, je pense, Madame Pinjot. Et là, bon, on a échangé quelques mots, parce qu'un imbécile qui était dans l'ascenseur aussi l'avait pris à partie. Et donc, c'était vraiment quelque chose de totalement idiot. Et puis, alors, ma deuxième rencontre, avant qu'il ne soit président, donc, c'était au restaurant. Et j'étais à table à côté de lui. Il était avec un ami qui est parti, et donc je me suis présenté, maire de Sorèze, et on a discuté. Et au bout après quelques échanges banaux, il me dit, mais est-ce que le père Lacordaire est toujours enterré à Sorèze ? Je lui dis, oui, bien sûr, etc. Et on a engagé la conversation sur Lacordaire. Et là, je me suis aperçu que le futur président, Mitterrand, était très intéressé par la spiritualité. C'était quelqu'un qui cherchait incontestablement, à travers ce que nous avons, ça a duré une dizaine de minutes, pas davantage. Mais voilà. Et donc, effectivement, il rencontrait très souvent le père Carré, qui est venu également à Sorèze, qui était également académicien. Et donc, cette recherche du spirituel, dont on parlait tout à l'heure, intéressait énormément Mitterrand.
Alors nous arrivons quasiment au terme de l'émission, parce qu'une heure c'est 60 minutes, mais ça défile très très vite. Alors je pose toujours quelques questions un peu plus personnelles à mon invité. Vous le savez, une œuvre d'art qui vous a marqué, alors, j'imagine que vous allez me répondre de Robert.
Oui bien sûr de Robert, on en a parlé rapidement. Don Robert était quelqu'un d'assez extraordinaire à ce niveau-là. Il adorait la montagne noire, la faune et la flore. Il dessinait d'une façon extraordinaire et surtout le rendre dans le cadre des tapisseries avec ses dizaines, vingtaines, trentaines de couleurs. C'était assez extraordinaire. Chacune a son numéro. C'est extrêmement minutieux et ça donne des résultats fabuleux.
Un moment qui vous a marqué particulièrement dans votre vie, qui est riche, alors il faut faire des choix, oui. Je ne vous en demande qu'un.
Alors c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs, je dis dans mon livre, bon, mon mariage, l'échange de consentement avec mon épouse a été un moment fort, un moment fort aussi que vous avez dû connaître, cher confrère et cher ami, la prestation de serment, C'est, oui, vrai, ça c'est marque. Quelque chose qui marque, en tout cas ça m'a marqué. Ouais. Et puis surtout l'entrée à l'Assemblée nationale, où paradoxalement, moi qui suis un libéral, j'ai pensé à Jean Jaurès. J'ai pensé à Jean Jaurès qui, pour nous, les Tarnais, est quelqu'un de fondateur, qu'on soit de droite ou de gauche. Car il inspire tout le monde, les uns et les autres. Même si, c'est naturel, le Parti Socialiste en a fait son icône. Mais pour un...
Enfin, le Parti Socialiste a beaucoup oublié ce qu'il a dit. Hein. Oui. Nous avons pu l'entendre dans le film qu'on évoquait tout à l'heure, Jaurès aux Amériques, de notre ami Francis Fourcou, où on donne beaucoup de textes de Jean Jaurès. Donc ça fait 120 ans, tout ce qu'il a dit, effectivement, était frappé au sceau de la vérité et du bon sens. Aujourd'hui, on a un peu oublié ça, globalement, et puis peut-être aussi le Parti Socialiste.
Oui, oui. Et donc, curieusement, j'ai pensé en lui, en rentrant à l'Assemblée nationale, parce que, bon, mes parents, bien entendu, ma mère surtout, parce que maman adorait l'histoire. Maman était secrétaire d'avocat, ou d'avoué plus exactement à l'époque. Oui. Bon, mais, et donc, j'ai pensé à mes parents, bien entendu, et puis, pour moi, c'était en quelque sorte un rôle sacré. C'était un rôle sacré, le fait de représenter mon département, parce qu'à l'époque, c'était l'entier département. C'était la proportionnelle, et donc, je n'étais pas l'élu d'une circonscription, mais de l'ensemble du département du Tarn. Et donc, j'ai pensé effectivement à ces personnages.
Il y a un homme qui vous a fait, qui vous a apporté beaucoup, qui a été peut-être votre modèle. Tout le monde n'a pas de modèle, mais est-ce que vous en avez eu un?
Oui.
Ou une femme, hein, je dis un homme.
Oui, oui. Une femme. Ma mère, bon, bien sûr, je pense à ma mère, parce que elle m'a donné le goût de l'histoire. Mais le personnage qui... je suis rentré en politique par Giscard d'Estaing, que j'avais rencontré à Gimont. À Gimont, il y a un restaurant, avant qu'on avait Jean, c'est le château de la Roque, je crois.
Oui.
Et comme par hasard, j'avais été invité et je me suis trouvé...
À chaque fois que vous allez au restaurant, vous rencontrez un homme politique de premier plan, non, Mitterrand dans l'ascenseur.
Je ne suis pas comme Zemmour quand même, qui raconte dans son dernier livre les rencontres avec tous les hommes politiques.
Je ne sais pas ce qu'il raconte, je ne l'ai pas lu et je ne le lirai pas.
Oui, oui. Ben, mais en quelque sorte, ça a été une rencontre avec un homme politique et donc c'était à Gibon, justement. Et j'ai trouvé ce personnage extrêmement intéressant et qui nous permettrait, je le pensais à l'époque, de passer à la modernité de notre pays. Voilà, c'était une rencontre pour moi formatrice.
On finit en parlant de livres.
Oui.
Michel Déon, Les Poneys Sauvages.
Et oui, alors pourquoi Michel Déon? Parmi les visites importantes à Sorèze, bon, j'ai parlé des princes, le prince Jean, son père, Alphonse également, de Bourbon. Il y avait à la fois ceux de la famille de Bourbon et ceux de la famille d'Orléans. Et d'ailleurs, je note que notamment Mitterrand n'avait jamais fait le choix entre les uns et les autres au moment du millénaire des Capétiens. Et donc, il est venu deux fois à Sorèze et on a parlé, bien sûr, de sa littérature. Et Les Poneys Sauvages, parce que Les Poneys Sauvages, pour moi, ont été une révélation. En dehors même des autres, Taximov, etc. Une révélation, pourquoi? Parce qu'il nous parle notamment de Catine. Et ça, c'était le premier, d'ailleurs, à en parler, puisque à l'époque, c'était encore controversé. Le Parti communiste, enfin l'URSS était encore dans sa puissance, et par conséquent, c'est assez courageux, effectivement, de parler de cela. Voilà pourquoi c'est un livre qui m'a beaucoup marqué.
Alors moi, je vais vous parler d'un autre livre qui m'a aussi marqué, qui est un livre qui vient de sortir, qui est très récent, qui est de Violaine Béraud, une jeune femme qui s'appelle « Comme des bêtes », édité par Buchet-Chastel. Alors c'est un petit livre, mais ô combien puissant, un roman à l'écriture poétique, mais à la tension palpable. Ça vous plairait, Albert? C'est un retour à la montagne, dans un village isolé, des parois rocheuses, une grotte aux fées, entre guillemets, et Mariette et son fils, une étonnante force de la nature, et puis l'étrange aventure qui va leur arriver, comme en réserve un peu trop souvent notre société qui se croit moderne. Alors, ça vous plairait, parce qu'en réalité, c'est une enquête de police et c'est très original. C'est un procédé d'écriture. Ce sont les témoignages qui sont servis aux gendarmes, que l'on n'entend jamais. On n'entend jamais la question. Ce sont les témoignages qui s'additionnent pour au final faire un panorama complet. C'est extrêmement bien fait, c'est encore une fois très puissant. Donc c'est un très beau moment de lecture que je vous conseille. Violaine Béraud, Comme des bêtes, chez Bûcher Chastel. Voilà, Albert Mamie. Alors, on aurait pu dire beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais pour cela, on va renvoyer les auditeurs à votre livre, Albert Mamie, une passion sorésienne, en sous-titré Les 50 Glorieuses. Et oui, c'était à ce moment-là. Édité par notre amie Anne-Marie Denis, qui tient la librairie de Sorèze. Donc, on ne sort pas de Sorèze, mais il y a Sorèze, il y a Encalcate, on a parlé de Revel, Jaurès, on aurait pu parler de Riquet aussi, parce qu'il a quand même marqué, hein. Pour moi, ce sont les deux grands génies de notre région, c'est Jaurès et Riquet, donc ça se trouve chez vous. De Dourgne aussi, de la Dinanderie, on n'a pas parlé de la Dinanderie.
Ça, c'est Durfort, oui.
Oui, c'est Durfort qui est à côté de Sorèze, qui est d'ailleurs commune de Sorèze, non ?
Non, c'est une commune à part entière, mais qui est enchâssée. Et d'ailleurs, c'est le bout du monde dont parlait Missler. Autre académicien, le Perpétuel, hein, enterré à Sorèze, né à Sorèze, enterré, ancien élève de l'école. Et enterré à Sorèze.
Alors pour ceux qui n'y sont jamais allés, allez à Sorèze rapidement, vous avez vu, il y a énormément de choses à voir et à retrouver, à rencontrer. Ceux qui y sont déjà allés, ben, il faut y revenir, ne serait-ce qu'à la librairie d'Anne-Marie Denis ou à ses salons du livre qu'elle fait régulièrement. On y mange aussi un excellent cassoulet.
Oui, c'est vrai.
Donc ça vaut vraiment le déplacement un week-end. Merci Albert Mamie d'être venu à ce micro, et puis je pense que vous reviendrez dans quelques temps nous reparler, puisqu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à évoquer ensemble. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne, avec à la technique Tiphaine Lemaine, que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission, ainsi que bien sûr ceux de toutes les autres, sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir Albert.
Au revoir et merci.